Chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Bonsoir.
Bonsoir les chroniques mutantes.
Coucou.
Il est 18h et vous écoutez Radio Panique.
Et nous sommes à l'heure. Et vous aussi.
Ouais. Mais moi aussi. Comment ça va ?
Eh bien, ça va pas mal. Et toi ?
Ça va. Je suis parti de chez moi en courant. J'étais en train de faire de la musique pour ma chère fille Blanquette Lagoulue. Qui me demande encore quelque chose d'assez incroyable. Et ma chaudière a lâché. Avant que ma chaudière ne lâche, j'avais pris une microdose de champi pour pouvoir composer de manière beaucoup plus relaxe.
Ok.
Du coup, j'ai quand même essayé d'éviter le bad trip avec la chaudière qui lâche, mais j'ai réussi.
Donc on vous informe que Baxter est à la technique.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Pardon. C'est moi qui pilote.
Sous champi,
exactement. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Pas maintenant.
On a un invité déjà.
Coucou. Oui, tu peux parler dans le micro.
Bonjour. Et donc, tu viens nous présenter la nouvelle activité du Front Q.
Ouais, c'est ça, le PQ.
C'est super.
C'est bien choisi.
On aime le nom. Et bon, on va en parler tout à l'heure.
Ouais.
On a Leïla, t'as un truc aussi, non ?
Oui, je vais vous faire une chronique historique de Abou Nawas, un poète du 8e siècle qui vivait très ouvertement son homosexualité.
On a un petit reportage d'action aussi, non ? Petite capsule ?
Effectivement, j'ai enfin le droit de le diffuser.
Un vieux dossier qui est déterré.
Un vieux dossier déterré, ouais, qui était une action... contre des psychiatres transphobes.
Ok.
Que de joie.
Une revue de presse aussi, si on a le temps. Et puis je vous raconterai un petit peu le rassemblement Justice pour Sourour qui avait lieu tout à l'heure. Mais peut-être on passe d'abord une chanson.
Ah oui, il faut que je... Ça va être sympa.
Oui.
Ah, ça va être sympa ce soir. Oui, on va écouter une chanson que tu as choisie. Qui s'appelle /, I got pentagram tattoos.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
Straight from the doldrums to this wonderful thing called rap. I bring you the only artistic expression on this face of the soul planet that ever mattered to me. So let out your pitchforks and fictionary stories. No matter how powerless they are welcome here. Thank you very much. I just gotta fix my headphones. Check. There we go. Yeah. I told my family no making it to my crucifixion. I told my granny the sentences I should do the dishes. I told my daddy my favorite place is the devil wake. I told my mama the hell and gates is a perfect place. So this is my response when I pray the gate. To paint me as Leatherface, zany and maniacal, MSV matriarchal, my enemy's patriarch. And I'm an angry feminist terrorist. And they label me scary. Ask anybody, they will tell you I saw my soul up on a crossroads in a dungeon in Warsaw. I'm only a cop, cause the Lord that you all know paints me as evil. It's bad that we both know. Deuteronomy 22, chapter 5 says a man shall not wear woman's clothes. I'm reading this with a dress on. I'm kinda like Jesus, I'm Teflon. I'm a blonde and a major, the God transgender.
And if any man of the Lord tries to use violence to challenge me, I swear to the gate gods that watch over me that I will eat your face. I am not terrified by your diatribes and exorcisms, cause any attempts will allow me to stare at your God in his face and tell him that he's not welcome here. I'm strong, I'm powerful. Black fucking Sailor Moon.
Chronique Mutante, l'émission en rose et noir de Radio Panique.
Nous revoilà.
Nous revoilà.
Comme c'était bien posé.
Oui, tout à l'heure, j'étais au rassemblement Place Poulart qui s'appelait Justice pour Sourour. On en a parlé un petit peu la semaine dernière de cette personne qui a été a priori, qui est morte
dans
un commissariat, à une affaire assez compliquée parce que l'État la veut compliquée de pas donner les vidéos à la famille, aux avocates, l'autopsie aussi, une contre-autopsie, ça a été très compliqué à faire parce que personne veut se mouiller ici en Belgique et la famille a dû faire appel à au pays dont ils sont originaires, la Tunisie, alors qu'ils sont belges, ils sont tous nés ici en Belgique. Donc tout ça nous était raconté là-bas. Et c'était, il y avait beaucoup de monde, il y avait, je sais pas, entre 500 et 1000 personnes, je pense. Donc c'est vraiment beaucoup pour un rassemblement pour une victime de violence policière. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé, il y a l'avocate qui a parlé et qui a expliqué qu'en fait... l'État est mal tombé parce qu'ils ne vont pas du tout lâcher l'affaire et s'il faut, ils iront devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que Sourour était une personne très très appréciée et donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de se battre et qui ne vont pas lâcher l'affaire. Donc là, on est dans un cas qui va vraiment compliquer la vie de l'État belge et on en est ravis. Après toutes ces victimes de violences policières, on nous appelle. Il y a la sœur de Sourour qui a pris la parole et qui a fait un discours sur sa sœur et aussi sur les questions plus politiques qui était très 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 fort. Il y a le président de la Ligue des droits humains, il y a son fils qui a parlé. Je pense que là on n'est pas à l'antenne. Ah. Bon, je vais continuer parce que si on n'est pas à l'antenne, on est quand même dans le podcast. Et je ne sais pas quoi dire parce que peut-être je vais répéter dès qu'ils auront réussi à régler leur petit truc de technique de quand j'ai pris des champis, j'oublie d'appuyer sur le bouton. Parce que la semaine dernière, c'était un autre animateur qui avait fait de la merde. C'est bon, on est à l'antenne là ? Est-ce que c'est sur cliquer sur Studio 1 ou...
Non mais pardon.
Ah oui.
Mais à chaque fois je me plante.
Oui mais tu sais que la semaine dernière c'est un animateur de notre émission qui nous a fait le plan. On est maudits avec ça.
Ok.
Du coup pour les personnes qui nous rejoignent, désolé pour les personnes qui sont sur le podcast, ça se répète un peu. Je disais que j'étais au rassemblement pour Sourour qui avait énormément de gens et qui avait des discours très 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 forts, très forts politiquement et émouvant, qu'un discours de l'avocate qui de Sourour qui a expliqué avec des mots très forts que jamais ils ne vont lâcher l'affaire, qu'ils iront s'il le faut devant la Cour européenne des droits de l'homme. Là pour l'instant ils demandent une instruction en Belgique et ça a l'air assez compliqué à mettre en place parce que Sourour était très apprécié, très entouré et autant par ses amis, sa famille que ses collègues de travail, donc il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés sur cette affaire. Il y a la sœur de Sourour qui a fait un discours très fort, politiquement très fort et très émouvant sur sa sœur et sur la situation dans cet État belge des victimes de violences policières. Il y a le président de la Ligue des droits humains qui s'est exprimé aussi et puis il y a son fils qui a parlé et qui a, ben, voilà, il a 19 ans et son discours était forcément très émouvant. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré dans l'Assemblée, on était entre 500 et 1000 places Poulart, et je pense que c'est une lutte dont on va entendre encore beaucoup parler. Et il y a quelque chose qui est revenu dans tous les discours, c'est que la présence physique de toutes ces personnes, elle était très très importante pour elles, parce qu'ils se sentent seuls là en ce moment, et de sentir qu'il y a tous ces gens là derrière qui sont là en soutien et qui vont continuer à être en soutien, ça leur donne beaucoup de force, parce que c'est une lutte qui va être très compliquée à mener. Donc voilà, on en reparlera encore à Chronique Mutante.
Ça fait un sinistre écho à d'autres.
Oui, moi j'avais entendu que dans la cellule où elle est morte, il y a d'autres personnes qui sont.
Voilà, il y a deux autres personnes avec également des prénoms maghrébins. Et cette liste qui n'en finit plus de victimes de violences policières, c'est vraiment une liste où il n'y a que des personnes racisées à l'intérieur. Et donc voilà, on parle vraiment d'un racisme d'État, d'une police raciste, violente. Et voilà, bon, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Mais vous pouvez suivre un peu tout ça sur les réseaux sociaux et puis on en parlera ici en temps voulu.
Merci.
Et donc, pour les auditrices qui tout à coup ont entendu du son apparaître dans leur poste, c'est parce qu'on n'était pas à l'antenne.
Mais on c'est ma faute.
C'est Chronique Mutante. On est quatre mutantes autour de la table. Nous avons un invité, Youni.
Bonjour.
Qui vient nous parler du front cul.
Du PQ.
C'est quoi le front cul déjà?
Alors le front cul, c'est une organisation. On est une dizaine de. Oula. On est une dizaine de personnes dans le front cul, et on essaye de s'organiser entre queer, créer de la solidarité, de l'entraide déjà entre nous, et essayer d'être là à différents rassemblements, créer un soutien, créer du lien de solidarité. Et ici, justement, le PQ, c'est notre initiative qu'on a eue récemment, c'est de créer un lieu où, une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, il y aura un lieu de rencontre, d'entraide qui serait possible à Scarbec, et ça serait l'occasion de que les personnes qui viennent à ce PQ s'emparent aussi du PQ et créent un lieu où selon les besoins et les capacités de chacun et chacune puissent apporter, faire un lieu qui vit un lieu en plus dans la communauté queer, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de lieux queer à Bruxelles, mais dans ce quartier-ci à Scarbec il y en a beaucoup moins, donc c'est cool qu'il y a un nouveau lieu et qu'il y a un endroit de partage et d'entraide. Et on essaie aussi de peut-être toucher des personnes qui ont moins accès à des lieux queer par la distance, par leur mobilité réduite, ou juste par l'âge ou la non-connaissance de personnes qui sont déjà dans les lieux existants.
Donc ça va être un PQG.
Un PQG? Pourquoi G?
Un QG, quoi.
Ah oui, un PQG, ouais, comme ça on peut dire, c'est pas mal. ouais, grave. Et ouais, l'idée, ça serait vraiment de rassembler aussi plein de choses qui se déroulent déjà dans la communauté. Donc s'il y a par exemple quelqu'un qui a besoin d'aide juridique, ben on parlera de la permanence d'aide juridique qu'il y a à Nastmonique tous les mardis, si je me trompe.
Oui, pas. D'ailleurs, mardi 7, il y en aura une.
Il y en a ce prochain mardi.
Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de créer aussi un partage entre les différents lieux, que tout ça vit et que tout soit connecté aussi, et qu'on crée vraiment une solidarité sur tout Bruxelles, et un partage de connaissances, de capacités, de besoins, de discussions. Voilà, je pense que ça va être super chouette.
Et vous ouvrez quand?
Du coup, c'est demain notre premier PQ, et ça sera à 15h. J'ai plus l'adresse en tête, j'ai oublié, mais je peux la rechercher.
Rue Royale Sainte-Marie?
Oui, c'est ça. Après le numéro, je sais plus.
270 ED, je crois, un truc comme ça.
Bon, on va vous dire plus clairement plus tard, pendant qu'on cherche.
Oui. Pour ma prochaine chanson, on peut peut-être rechercher l'adresse. Sorry.
Oui, d'ailleurs, pour m'excuser, j'ai déjà choisi une prochaine chanson. Bah, si vous voulez.
C'est quoi? Mangez-moi.
Hein. Non, ça va.
Et parce non, mais... que pour les personnes qui nous rejoignent, en fait, Baxter a pris des champis. Voilà.
C'est quoi ce shaming?
Oh, ça va, mushroom shaming, on a le droit.
Bah, non, oui, c'est clair. Non, mais bon, bref, de toutes les manières, je me plante toujours. Et c'est... Pour une fois que j'avais l'impression d'avoir tout bien fait, on avait décollé à l'heure et tout.
Ouais, t'es arrivé en avance.
Ça, c'est notre malédiction du front LGBT qui attaque Radio Panique depuis 7 ans.
Ouais.
Parce que notre malédiction technique, on nous a jeté un mauvais sort, tout le monde le sait.
Il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois si on le fait exprès ou pas.
Ouais, moi non. Aussi.
On pourrait.
Ça fait partie de votre charme un peu.
Oui,
de notre ADN.
Ouais, on est obligé un petit peu.
De Radio Panique.
Ouais.
Mais c'est ça.
Autant assumer. Est-ce que la chat est ouverte par hasard?
Bah, alors, déjà, je sais pas mettre le bon studio en ligne.
Ok.
Je sais pas ouvrir la chat, mais pendant la chanson, je pourrais demander à Adrien de m'aider si vous voulez.
Allez.
Mais du coup, on va écouter Apologize to the Future de Chris Corda, qui est une pionnière de la musique électronique et qui est une formidable personne et une femme trans à avoir aussi fait des logiciels en open source pour créer soi-même sa musique électro. Voilà, du coup, on va écouter Chris Corda.
Apologize. Your life is built on convenient lies, and the time has come to apologize. Corporations lie, that's what they do. But you lie to yourself, and that's on you. The climate disasters on your TV just couldn't happen to your family. Drowning cities are so unnerving, but the victims must be less deserving than you and yours, because you're the best at working hard to enslave the rest. Of course, it had nothing to do with luck, or a sperm and egg lottery won by a fuck. Apologize. You pulled yourself up by your bootstraps, creating jobs, not begging for scraps. You thought the jobless were lazy bums, but they've got guns and they're not so dumb. The poor you ignored for all those years will hunt you down and laugh at your tears. And your very own kids that you claim to adore will be fighting for their lives in a climate war caused by your system of free enterprise. So get on your knees and apologize to your kids for the misery they'll endure, and the hellish fate that your greed ensured for plants and animals and humans too. Made extinct by a sick worldview, we'd be better off living in an alien zoo. We're up shit creek with no canoe. Creek, apologize for the dying seas, apologize for the clear cut trees, apologize for needless birth, apologize to what's left of Earth, apologize for overpopulation, apologize for mass migration, apologize to the United Nations, apologize to future generations. Creek, apologize for the dying seas, apologize for the clear-cut trees, apologize for needless birth, apologize to what's left of Earth, apologize for overpopulation, apologize for mass migration, apologize to the United Nations, apologize to future generations. Apologize. Future to the future.
Mutante un jour,
mutante toujours.
Oui. Alors, entre-temps, on a retrouvé l'adresse du PQ qui ouvre demain de 15h à 19h. Et c'est rue Royale Sainte-Marie au numéro 185.
C'est ça. Et franchement, ça sera super chouette. J'ai oublié de le mentionner là tantôt, mais il y aura à bouffer vegan et non vegan. Il y aura peut-être une petite bibliothèque solidaire aussi, des livres qu'on pourra lire sur place. Il y aura un petit endroit de chill. et un petit endroit où il y aura un peu plus de monde et où il y aura la bouffe et tout ça. Donc franchement, venez, ça va être super chouette.
Trop bien. Et du coup, votre bibliothèque, elle est en train de se construire. Est-ce que vous demandez que les gens ramènent des choses?
C'est ça. L'idée vraiment, c'est que le PQ vit en fonction de ce que les gens apportent. Donc clairement, si des gens veulent apporter des livres à la bibliothèque, c'est avec plaisir. Pour l'instant, on a une personne dans le FrontQ qui a pas mal de livres qui les met à disposition. Mais c'est l'idée que les livres soient lus sur place, ça part pas de là. Mais si ça tourne, au mieux, vraiment, l'idée c'est vraiment que tous ces livres tournent, que tout le monde puisse apporter quelque chose, c'est vachement chouette.
Et c'est, du coup, il y aura donc le QG du PQ sera à la pompe.
C'est ça.
Et est-ce que ça va toujours être le cas ou ça va être itinérant ou...
Alors en fait, le PQ, c'est vraiment l'idée que ça soit autogéré par les personnes qui viennent. Donc là, c'est lancé pour l'instant par le FrontQ. Mais ça ne va pas être organisé à chaque fois par le FrontQ, ça sera en fonction des personnes qui viennent. Et clairement, si la volonté chez ces personnes qui fréquentent le PQ est de d'aller dans un autre lieu ou déplacer ça ou d'avoir besoin d'un plus grand lieu, ben clairement, ça sera l'évolution du PQ et on va voir. Et je pense que ça peut aller dans toutes les directions. Pour l'instant, il y a cet endroit-là qui nous donne leur lieu. Clairement, c'est pas le plus grand lieu, donc s'il y a plein de monde, on devra peut-être réfléchir à trouver un nouveau lieu, mais ça sera avec les personnes présentes. Et je pense que si la volonté est là de trouver un nouveau lieu ou de transformer le PQ, ça sera le cas et l'énergie sera libérée pour.
Et du coup, c'est qui le FrontQ? D'où ça vient? Moi, je me souviens d'avoir été pendant une période de trouble en 2020, je me souviens d'avoir été dans un apéro d'inauguration du FrontQ, je crois, ou un truc dans le genre. Et puis j'ai cru comprendre que vous aviez, enfin je crois savoir, j'avais eu l'impression que vous aviez été un peu à l'initiative de la P-Ride.
La Pride Vénère.
Oui.
Oui, en fait, le FrontQ existe depuis 2020 seulement et ça faisait partie.
Déjà 3 ans. Hein.
Ouais, quand même, c'est vrai. Et ça faisait partie en fait de l'UCL, l'Union communiste libertaire, dont on fait plus partie parce qu'on avait plusieurs désaccords entre nous. Mais voilà. Mais du coup, oui, à l'époque, en 2021, on avait lancé un appel. On en voulait faire une Pride parce que la Pride ne se passait pas. Elle était en ligne et on trouvait ça une insulte à nos vécus, à le fait que le confinement était très difficile pour nombreuses personnes. Personnes queer, donc on voulait vraiment marquer le coup et se réapproprier la rue et la Pride d'une certaine manière, mais bon, on voulait pas non plus imposer quoi que ce soit à la commune. Donc l'idée c'était qu'on avait choisi une date pour une réunion et fait un appel pour à tout le monde de venir à cette réunion. Et du coup, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient venues à cette réunion et c'était vachement cool. Et ça a créé donc cette Pride Vénère et toutes les actions qui.
À vélo,
ouais, c'était vachement chouette. C'était une Pride Ride à vélo. Mm-hmm. Et du coup c'était vachement chouette et en fait c'est ça qui nous a fait penser à créer ce PQ justement parce qu'à cette Pride Vénère et suite à cette Pride Vénère il y a plein de gens qui se sont rencontrés à ce moment là qui ont tissé des liens, qui ont créé peut-être des collectifs après, des petits lieux, des orgas ou des collectifs artistiques aussi. Donc on a vu que la force de la communauté c'est de justement se mettre ensemble, créer du lien et c'est depuis ces liens qu'on crée des vrais lieux de vie et de fêtes ou d'art ou de chill. Et l'idée, vraiment, c'est ça, le PQ, que s'il y a plein de nouveaux collectifs qui se créent parce que des gens se rencontrent au PQ, ça serait magnifique. Quoi.
Et puis tu dis que vous n'aviez que 3 ans, mais 3 ans en âge de collectif.
Après, on a eu une petite pause de 8 mois où on n'a rien fait. Ça nous a fait du bien aussi. Donc là, c'est là on revient avec le PQ, disons. Mais oui, c'est vrai que 3 ans, c'est long aussi. C'est cool.
Et en parlant d'action militante, il y a quelques semaines, on avait parlé d'une attaque à la litière pour chats.
Ah oui. Effectivement. C'était en décembre, en fait, déjà.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui.
C'était, du coup, moi, je me suis rendu sur place tout à fait par hasard, bien évidemment. avec de quoi enregistrer, tout à fait par hasard, encore une fois. Pour enregistrer ça.
Toujours, on enregistre dans ta poche.
Toujours, moi H4 dans ma poche.
Comme bon artisan de Radio Panique.
Voilà, exactement. Toujours de quoi enregistrer. Et du coup, il y avait cette action, effectivement, à coup de litière de chat et boule puante.
qui s'est menée contre deux psychiatres transphobes. Où là, j'ai oublié leur nom, mais en même temps, ça m'arrange de ne pas les citer. Je ne vais pas leur faire de la pub. Dans... Il y a une objection ?
Moi, je trouve qu'on pourrait savoir si on ne doit pas se rendre chez eux.
Je crois qu'ils sont français, non ?
Ouais. Non, mais de toute façon, elles seront citées à l'intérieur de cette petite capsule audio que j'ai faite. Okay. Du coup, ça me sauve, merci. Et ça se passait dans un café qui s'appelle le Café Laïque, aka le CAFLA, qui, en gros, genre, base quand même toute sa programmation entre racisme anti-islamophobe et transphobe. Donc voilà, c'est pas non plus un charmant lieu. Et j'ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc si normalement tout se passe bien, on va pouvoir l'entendre. Et voilà, bonne écoute. Suspense.
Ok, du coup, nous on a vu qu'il y avait une conférence de Caroline Eliachef et Céline Masson. On a compris que c'était une conférence pour promouvoir les thérapies de conversion sur les personnes trans, avec un argumentaire centré sur justement la protection des enfants. On a trouvé ça totalement dangereux et donc du coup on s'est dit qu'effectivement on allait interrompre cette conférence pour pouvoir... ce qu'on a décidé de faire, c'est de perturber cette conférence un maximum pour qu'elle n'ait pas lieu. Ah oui, aussi un autre truc, c'est que cette conférence a lieu dans un café qui s'appelle le Café Laïque, qui est un café centré sur l'islamophobie, qui accueille des conférenciers et conférencières très régulièrement avec des discours fascistes, réactionnaires, racistes, islamophobes et là dans ce cas transphobes. Notre action n'était pas seulement centrée sur cette conférence en particulier, mais sur le café en lui-même. On s'est introduit pendant que la conférence avait lieu dans ce café-là. On était une vingtaine de personnes à l'intérieur. Il y avait aussi des personnes à l'extérieur qui faisaient des collages pour dénoncer le café en disant que le café était raciste et transphobe. Donc du coup, on a scandé des slogans, notamment café raciste, café transphobe, café fasciste, islamophobe. Protégeons nos enfants des thérapies de conversion. On a décidé de répandre de la litière pour chat et des boules puantes pour pouvoir s'assurer que la conférence n'aura pas lieu après notre passage. Qu'elle se ferait dans la puanteur, évidemment.
De toute façon, le thème de la conférence avait déjà avant notre passage.
Voilà, c'était une petite capsule. Et pour compléter l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que très vite après l'action, les médias français principalement ont relayé l'action. Pas du côté des personnes qui avaient fait l'action, bien évidemment. Mais c'est allé très loin, genre très vite, on est passé de la litière pour chat à des excréments de bétail. Et que c'était un groupe de terroristes transactivistes. C'était assez gros directement, entre autres Libération, Le Monde.
Libération ?
Ouais.
Valeur actuelle ?
Valeur actuelle.
Ah, tu m'aurais dit Marianne, Valeur actuelle, mais je pensais pas des journaux censés être centristes comme Le Monde et Libération qui reprennent ces dépêches-là, quoi.
Ouais, à peu près tout, hein, franchement, mais assez vite, parce que quand j'en avais parlé, il y avait au moins, genre, je sais pas, peut-être 5 à 7 articles qui étaient déjà sortis et qui évaluaient toujours de plus en plus le nombre de personnes, les dégâts causés, alors qu'à part avoir jeté de la litière pour chat, il s'est pas passé grand-chose.
Est-ce que ces psychiatres ont reçu de la litière pour chat sur leur visage ?
Alors, sur leur visage, je crois pas.
Sur leur corps ?
J'espère.
Ah ouais, moi aussi.
Est-ce qu'ils ont vomi?
Non, mais ces personnes ont filmé, ont posté la vidéo sur les réseaux directement. Enfin, en fait, elles étaient tout au fond de l'espace. Du coup, ça n'a pas été facile de les accéder directement. Il y a des personnes de 50, 60 ans qui sont ligués contre les personnes qui faisaient l'action, qui franchement n'étaient pas violentes, quoi. Mais par contre, ces personnes-là qui sont liguées contre LE l'été, genre vraiment où on poignait, on poussait, on tapait les personnes, enfin bref, c'était un joli petit chaos dans ce café fasciste. Donc bon.
En tout cas, j'adore leur mode d'action.
Mais oui, c'est trop cute.
Et ça me rappelle une histoire que tu m'avais racontée, Vir, avec des militants qui avaient vomi, enfin qui avaient pris des pilules pour vomir.
Non, je sais pas, moi je raconte souvent l'histoire des Pampers, mais...
pendant un discours de Christine Boutin.
Ah non, s'il n'y a pas eu de vomi à ce moment-là.
On a parlé.
Ouais, bah, Christine Boutin, non, il n'y a pas eu de vomi. Par contre, je sais qu'en manif, une fois à Nantes, au moment de la ZAD, de la vraie ZAD, quoi, pas maintenant, quoi, les militants avaient récolté beaucoup de Pampers pour usagers avec des cacas dedans. Ils les ont jetés sur la police et ça a vraiment bloqué la police parce qu'il y a un moment d'arrêt comme ça où ils ont plein de caca sur leur masque, ils sont super dégoûtés et ça, je sais pas, ça les a bloqués en fait. Il y a eu un moment de ça a fonctionné quoi, l'espace d'un temps tout s'est arrêté et la police était assez désœuvrée. Donc voilà, le caca c'est bien. le caca c'est de gauche, c'est extrême gauche le caca.
Et cela dit, en Belgique, il y a une grande tradition d'entartage pour c'est rappel.
Oui, bah, Christine Boutin, on l'avait entarté en effet.
Gates, Sarkozy, Bush.
Il y en a eu beaucoup.
Après, pendant très longtemps, une de mes blagues préférées était de faire semblant de vomir devant des vitrines de resto gastronomiques. Ce qui est un peu un prank, un peu habituel comme ça. Ça se fait, quoi.
Ça se fait.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Eh ben, est-ce que vous avez envie d'écouter une petite chanson et après, peut-être, je vais vous raconter une histoire.
Oui.
Trop bien. Eh ben, j'ai prévu une chanson, sûrement à mon égard, vu mon état. C'est Divine, I'm So Beautiful.
Ah, wow. Voilà.
Donc, on va écouter Divine. À tout de suite.
Oh, Chronique Mutante, une émission
Rallye, Rallye Cool.
Hello, je vais vous faire une chronistorique.
Trop bien.
Et aujourd'hui, dans les chronistoriques, on part en Iran et en Irak au 8e siècle, à la rencontre du poète Abu Nawas. Si vous êtes un auditeur hyper assidu, vous vous souvenez peut-être d'une de mes chroniques d'il y a 4 ou 5 ans, ou 6 peut-être, où je vous partageais ses poèmes où il célébrait son homosexualité, sans peur d'être tué ou ostracisé, et ce, il y a 1200 ans.
Ça me dit quelque chose.
Chronique
historique !
Est-ce que tu sais, on m'a dit qu'il y avait une dame qui
était pas si simple que
ça.
Non.
Chronique historique. C'est des chroniques avec des storiques dedans.
Abu Nawas est né vers le milieu du 8e siècle dans le sud-ouest de l'Iran. Abu a 6 ans à peine lorsque son père, soldat dans l'armée omeyyade, meurt. Il est élevé par sa mère Tisrande et persane Julban. Il lui porte un amour immodéré. C'est parce qu'il était un enfant heureux, malgré sa grande pauvreté, qu'Abu Nawas sut, envers et contre tout, conserver une gaieté et une joie de vivre. Bercé par les contes persans que lui racontait sa mère le soir, son imagination se peuple de figures merveilleuses. C'est ainsi qu'il développe son goût pour la littérature. Abu Nawas est encore un jeune garçon quand sa mère l'envoie travailler chez un épicier de Basra. Il a de longs cheveux bouclés et passionné par les histoires. Il erre souvent dans des villages environnants pour écouter ce que les gens ont à raconter, s'informer sur leur manière d'avoir des relations. À 14 ans, il comprend et prend des notes particulièrement sur les rôles de genre. Il quitte son travail et se rend à Koufa. Dans cette ville, il se forme comme poète et reçoit les influences qui marquent sa vie. Il y fréquente un cercle de libertins, homosexuels pour la plupart d'entre eux. Il vit d'abord dans des conditions déplorables avant de rencontrer le poète Waliba, son premier maître, qui est frappé par sa grande beauté et l'initie au libertinage. Puis, Abu Nawas se sépare de Waliba avec son autorisation pour poursuivre son étude de la poésie dans le désert auprès des Bédouins, les maîtres de la poésie arabe de l'époque. La tradition rapporte que Calaf, son maître, lui aurait imposé de ne composer aucun vers avant d'avoir appris par cœur des milliers de vers de la poésie ancienne. Abu Nawas les apprend, puis souhaite composer de la poésie, mais Calaf le lui interdit. Il lui impose ensuite de tout oublier. Quand il aura tout oublié, il pourra composer. Abu Nawas se rend ensuite à Bagdad, la jeune capitale du califat abbasside. Bagdad est une des cités les plus prospères au monde, un centre de commerce, d'art et de littérature. Le poète arrive à la cour à la recherche de mécènes. À l'époque, les artistes n'écrivent pas des demandes de subsides ou des appels à projets, mais des louanges aux puissants pour obtenir leur faveur et leur protection. Il se fait vite remarquer par le calife. Il entre dans l'intimité de son fils, le futur calife Al-Amin, qui est un temps son disciple et bientôt son ami et son amant. Abu Nawas s'écarte des codes et des thèmes traditionnels du désert des anciens et met en avant une poésie d'amour, bachique et érotique, inspirée de la vie citadine. Il se fait surtout connaître pour son goût de la dérision et de la satire. Il marque par son sens de l'humour, son esprit et sa sensibilité. Deux de ses thèmes de prédilection sont la boisson. Il écrit par exemple « Mes amis, enterrez-moi près d'une taverne » et « L'amour ». Sans inhibition, il décrit les amants qu'il désire et beaucoup de ses poèmes racontent des scènes de rencontres dans des bains publics et des hammams. Ses partenaires de choix étaient presque toujours chrétiens, car seuls les non-musulmans étaient autorisés à tenir taverne ouverte. Le type de mec d'Abu Nawas, c'est le page chrétien glabre à la peau lustrée. Et maintenant, je vais demander à Baxter de nous lire un de ses poèmes.
Un fan aux accents nasillards, affable et polissé, t'emplit la coupe. De son office, avec art, il s'acquitte et lentement balance sa croupe où se love une verge qui à la tunique se frotte. Le vin aidant, sa volonté le quitte. Il s'abandonne au sodomite exercé qui dénoue de son pantalon les lacets. Que ne m'aime-t-il ? Comme il vénère les Écritures et l'Évangile. Que ne suis-je le ciboire que ses lèvres caressent, du calice qu'il boit le corps ou l'écume, pour que mes tourments et mon amertume à son approche disparaissent.
Ah, waouh. Abu Nawas grandit et vit dans une société déchirée entre deux tendances. La première promouvant la vie religieuse dictée par des écoles théologiques. La seconde, le libertinage et l'immoralité. Il porte en lui ses contradictions. On le voit fréquenter la mosquée, des conférences de maîtres en théologie. On le voit aussi se livrer à toutes les débauches possibles et imaginables, habitué des tavernes et des orgies. Il vit très ouvertement son homosexualité, ce qui est répandu à Bagdad. C'est, les historiens le savent depuis longtemps, sans en faire toujours état, que l'homosexualité est devenue sous les Abbassides un phénomène de société. Elle gagne même les plus hautes sphères du pouvoir, puisqu'on nous raconte que Zubeïda, la femme de l'illustre Haroun al-Rachid, se voit contrainte d'ordonner aux servants du palais de se déguiser en homme, tant la passion de son fils, l'héritier du trône, était immense pour les garçons. La culture islamique classique, jusqu'au XVIIe siècle au moins, a toléré l'homosexualité. Éthiquement parlant, le Coran n'admet pas l'homosexualité, mais le passage de cette condamnation morale à une condamnation juridique n'existe pas. Ce sera à partir d'un héritage culturel étranger que désormais la gravité de la sodomie sera décrite comme nuisible à la procréation et à la pérennité de l'espèce humaine. La famille du poète l'aurait contraint à se marier et l'aurait rapidement répudié son épouse en accompagnant ses actes de vers misogynes. Il suggère qu'une force occulte l'empêche d'avoir du désir pour les femmes. Pour lui, c'est le destin ou la volonté divine. Quand il s'intéresse à des femmes, c'est qu'elles ont des traits masculins. Il a aussi écrit sur les plaisirs de la masturbation qu'il voit inférieur à l'amour des garçons, mais préférable au mariage. Lorsque la famille puissante des Barmécides est renversée et massacrée par le calife, Abu Nawas se voit contraint de fuir en Égypte pour ne pas être inquiété, à cause des louanges qu'il leur avait adressées. Et puis, après son exil en Égypte, il rentre à Bagdad après la mort du calife. La succession au califat par El-Amin est un immense soulagement pour le poète. Le nouveau calife le prend officiellement pour commensal et échanson, le rôle privilégié de celui qui a le droit de manger avec lui et de lui servir à boire. C'est la période la plus faste de sa vie. Seulement, il n'a aucun respect pour les formes sacralisées du pouvoir. Il n'hésite pas à critiquer régulièrement et publiquement son ami et amant, le calife Al-Amin, qu'il appelle une fois pédéraste actif et tel vizir de pédéraste passif. Leur relation, marquée par le rapport de pouvoir inégal, est tumultueuse. Au lieu de bouder après une dispute, le calife le menace de l'enfermer au cachot. De nombreuses anecdotes ont résisté au temps et à la censure. Le calife était son compagnon d'orgie et de biture, alors qu'il devait garder l'image d'un chef sacré et garant de la moralité. On raconte qu'un jour, Abu Nawas invite le calife, qui s'était isolé avec son amant, à l'associer à leur plaisir, pour ne pas encourir la couleur divine en se montrant peu partageur. Pour ce qui est de la boisson, le calife n'était pas le dernier, et il pouvait avoir l'alcool mauvais. Son servant Kautar a ainsi prévenu Abu Nawas quand il est devenu son favori. Je cite « À toi de lui verser à boire. Sois bienveillant et attentif avec lui, car, sitôt qu'il est ivre, il devient querelleur et assassin. » Effectivement, sous l'effet de la boisson, le calife ordonne à Kautar de tuer le poète. Familier des ivresses de son maître, Kautar enferme Abu Nawas dans une pièce sans l'exécuter. Et comme il l'a prévu au matin, le calife réclame le poète. Kautar lui dit qu'il l'a tué sur ses ordres. Et le calife alors rentre dans une grande colère. Il menace de l'exécuter à son tour s'il a vraiment appliqué la sentence. Kautar lui raconte alors ce qui s'est passé. Ensuite, Al-Amin officialise le poète dans sa fonction de favori. Une autre fois, le calife tente d'éviter à son poète la prison réclamée par son grand-oncle Souleyman. Il essaye de les réconcilier. La rencontre des deux hommes se passe très mal et selon le narrateur, le calife fut dans l'obligation d'emprisonner son poète pour ne pas être accusé d'avoir laissé insulter son grand-oncle sans réagir. Une autre fois, Al-Amin, furieux des attaques de son poète au sujet de sa fortune, l'injurie, écoute plusieurs témoins l'accuser d'hérésie, puis le fait emprisonner sous le motif qu'il a dit boire autant d'anges que de gouttes d'eau de pluie réunies dans un verre. Le poète le convainc de renoncer grâce à l'adresse et à la sophistication de son poème. Les ennemis d'Al-Amin, arguant que la présence d'un poète libertin à la cour califale alimenterait l'impopularité du calife, ils lui disent de s'en défaire. Al-Amin le fait finalement emprisonner 3 mois pour non-respect de la morale musulmane et lui interdit de boire. Abu Nawas y compose des poèmes ascétiques où il demande à Dieu de lui pardonner son penchant pour la boisson. Abu Nawas vit la fin de sa vie ensuite traumatisé par les événements qui suivent. Il assiste tristement à la guerre civile qui oppose Al-Amin à son frère Al-Ma'mun, qui ravage Bagdad. Le calife est finalement assassiné par Al-Ma'mun, et celui-ci n'a aucune indulgence pour Abu Nawas. On ne sait pas exactement quand Abu Nawas est mort, peut-être vers l'an 815. Triste, amer et désenchanté. Des historiens avancent qu'il décède enfermé dans un cachot. Une tradition rapporte que le vizir d'Al-Ma'mun, Zonbor, haïssant Abu Nawas, lui aurait commandé un poème satirique au sujet d'Ali, le gendre de Mahomet, afin d'aggraver son cas. Zonbor l'aurait ensuite lu à voix haute en public, garantissant ainsi son maintien en détention. Selon d'autres narrateurs, Abu Nawas meurt dans un cabaret. Abu Nawas est le seul poète qui a excité à ce point l'intérêt des savants comme des gens simples. Dans les cercles des mosquées, dans les souks, les conteurs se plaisent à narrer ses récits, les plus piquants et les anecdotes les plus croustillantes. Il devient même personnage des mille et une nuits, ce qui indique qu'il a acquis la stature d'un personnage de légende, symbole du jeu, de l'humour, de la gaieté, du marivaudage, de la frivolité et de l'intelligence. Malheureusement, en 2001, le ministère égyptien de la Culture a brûlé près de 6000 exemplaires de la poésie d'Abu Nawas pour ses passages homoérotiques et pour avoir, selon lui, porté atteinte à l'islam. Beaucoup de son œuvre est perdue à jamais, mais une grosse partie survit toujours dans différentes bibliothèques dans le monde. Et enfin, en Algérie, l'association Abu Nawas s'est fondée en 2007 et a créé la Journée nationale des LGBTQIA+, célébrée chaque 10 octobre, jour pendant lequel, à 20h, une bougie doit être allumée et une photo de celle-ci doit être postée sur les réseaux sociaux, en guise de solidarité et de tolérance envers les personnes de la communauté. La principale mission de l'association est la décriminalisation de l'homosexualité en Algérie. Et voilà.
Merci. Merci, Leïla.
Plaisir.
C'est toujours très énervant quand j'entends que les archives disparaissent.
Ouais. Mais n'empêche, on n'est pas sûr de la date de sa naissance et la date de sa mort. Par contre, il y a tellement d'anecdotes croustillantes sur sa vie. Et, donc, il y a quand même plein de traces qui restent et qui ont aussi été portées par des traditions de narration orale. Quoi.
Okay.
Et il est hyper, hyper connu comme un des pères de la poésie arabe. Mais oui, quand j'en avais parlé il y a quelques années, j'avais un copain marocain qui m'avait dit « mais je ne savais pas du tout qu'il était homosexuel ». Et pourtant, on a parlé de lui beaucoup, beaucoup à l'école. Quoi. Donc, ouais. Il a été straight-washé comme, ouais, comme plein de monde.
Comment...
Pause musicale et revue de presse.
Allez. Oui, est-ce que je voulais mettre Virgin Prune.
Ah oui, ouais, Baxter proposait de passer Virgin Prunes, la chanson If I Die, I Die. Et je proposais de la passer ce soir en hommage à Mitch qui est mort cette semaine il y a un an.
Ok. R.I.P. Mitch. We'll be right back.
Chronique Mutante, une émission féministe pour décortiquer, analyser, problématiser les injonctions hétéronormatives.
Chronique Mutante!
Et on revient un peu sur le front cul. Juste pour clôturer l'émission, parce qu'on va enchaîner plusieurs trucs là. Donc le PQ c'est demain, tu veux redire les infos pratiques, Yoni?
Oui, du coup c'est demain à 15h rue
Royale Sainte-Marie 185 à la pompe.
C'est ça, excusez-moi. Du coup c'est accessible à tous, c'est aussi tous et toutes, c'est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, c'est important de le dire. Et du coup c'est un lieu d'entraide, de solidarité, donc tous les besoins, toutes les choses que vous pouvez apporter sont la bienvenue. Donc n'hésitez pas avec vos questions, vos doutes ou vos besoins. On va essayer de trouver des solutions ensemble et s'entraider là où on peut et créer du lien tous ensemble demain de 15h à 19h à la pompe.
Et vous serez ouvert une fois par mois, c'est ça?
C'est ça, chaque premier dimanche du mois.
Ok. Super. Bon, on ne manquera pas de le rappeler ici à Chronique Mutante alors. Enfin, on va essayer en tout cas. Mais je vous propose une autre activité pour demain après-midi, désolée. On peut peut-être conjuguer les deux parce que le PQ finit à 19h.
Voilà, c'est peut-être possible plutôt d'aller au PQ après, mais je vous propose de nous retrouver à 14h à Gare du Nord pour la manifestation nationale pour la régularisation des personnes sans papier. Il y a une loi, on en a parlé aussi la semaine dernière, mais je redis un petit mot, il y a une proposition de loi citoyenne qui a été signée par plus de 33 000 personnes. Et voilà ce que demande la manifestation demain, c'est l'étude et le vote de cette loi pour régulariser les personnes sans papier. Moi j'ai un peu d'espoir, la Belgique est un des premiers pays au monde à avoir régularisé le travail du sexe, et je pense que qu'en se mobilisant et en bougeant le cul, en faisant du lobbying et des manifestations, on peut aussi être le premier pays au monde à régulariser les personnes sans papier. En tout cas je l'espère, parce que ce qui se passe là en ce moment c'est vraiment abject. Donc soyons nombreux demain à 14h à Gare du Nord.
Oui, et dans l'agenda, alors comme on l'a dit tout à l'heure, la semaine prochaine à Nasmonic, mardi 7 de 16h30 à 18h30, il y a la permanence juridique administrative. Et samedi 11 mars, toute la journée, de 11h à 18h30, un accueil sera prévu dès 10h45, il y aura une journée d'autodéfense cycloféministe, sans hommes, cisgenres, hétéros. L'autodéfense cycloféministe permet de prévenir et de réagir face à des violences, quelles qu'elles soient, physiques, verbales, psychologiques, que ce soit sur un vélo ou autour du vélo, post-accident, magasin mécanique, vélo, discussion, etc. Donc l'atelier comportera deux parties. D'abord de développer des ressources qui nous sont propres, de commencer à prendre conscience de nos limites et d'augmenter nos capacités d'action et de décision grâce en partie au jeu de rôle. Et la seconde partie vise à nous rendre plus autonomes en mécanique vélo via l'apprentissage de vocabulaire de base, de comment réaliser un diagnostic et des petites réparations. Donc vous pouvez venir avec votre vélo et ce sera à Nasmonic 230 Quai de l'Industrie.
Il nous reste 5 minutes.
Et c'est quoi la bonne nouvelle de ta revue de presse? Alors, tu t'as dit que tu n'avais que des mauvaises nouvelles.
Comme d'hab, mais oui, on n'a pas le temps de faire la revue de presse. Mais il y avait une seule bonne nouvelle, et c'est qu'à Hong Kong, le militant trans Henri Tse a mené une longue bataille juridique pour faire reconnaître son véritable genre auprès des autorités a gagné. Donc ça fait plus de 6 ans qu'il se battait. Il a obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême du pays pour modifier la mention de genre en homme sur sa carte d'identité. Une victoire qui, l'espère-t-il, facilitera la vie de l'ensemble de la communauté trans de la ville. Voilà. Ça, c'était la bonne nouvelle.
Mais c'est bien, il ne faut pas regarder les mauvaises nouvelles.
On en parlera la semaine prochaine, sinon.
Double dose de mauvaises nouvelles la semaine prochaine.
Oui. Mais il y a des trucs un peu fun aux États-Unis. On aime bien les, enfin, on aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien les mauvaises nouvelles aux États-Unis parce que c'est toujours grandiloquent et absurde et too much, mais triste, très triste. Oui, on a un peu de temps, c'est vrai. Bon, on en parlait un petit peu. Leïla, tu en as parlé un peu la semaine dernière là, sur les drag queens.
Mm.
Et ben,
qui sont bannis dans plusieurs États. Il y a plusieurs lois fédérales pour interdire les shows de drag queens, surtout alors, l'heure de lecture dans des bibliothèques.
Tout à fait. Alors en fait, ça c'est, pour l'instant, c'est qu'au Tennessee. Mais ça va évidemment aller vers d'autres États comme le Texas, le Kansas, l'Arizona, tous ces États très ouverts d'esprit. Et donc, en fait, c'est une longue guerre culturelle qui a eu lieu à cause de spectacles de drag queens qui font des lectures pour les enfants. Et en fait, je ne savais pas, ça allait assez loin. Il y a des personnes qui font des manifestations devant, il y a des personnes qui font des anti-manifestations pour que les enfants puissent rentrer en paix en passant des chansons du Roi Lion pour qu'il y ait une musique, qu'ils n'entendent pas toutes les insultes. Il faut vous rappeler que tout ça, c'est que pour des enfants. Et en fait, je suis en train de tourner mes feuilles comme ça, mais j'ai tout perdu. Et ça va assez loin, en fait, dans le délire. Et donc, voilà, il y a une loi qui a commencé à être votée, d'autres qui se préparent pour interdire les drag queens. Alors, au-delà des drag queens, le problème, c'est ce qui inquiète beaucoup la communauté, c'est plutôt par rapport aux femmes trans. Et la grande peur qu'il y ait un amalgame entre drag queens et femmes trans, c'est qu'en fait, on empêche aussi les femmes trans de travailler avec des enfants. Et sinon, toujours aux États-Unis, il y avait une bataille dont on a aussi parlé entre le gouverneur de Floride qui s'appelle Ron DeSantis, qui a un gros trou du cul, mais qui sera peut-être un jour président des États-Unis. En tout cas, il est bien senti pour représenter son parti, le Parti républicain. Et en fait, il bataille avec Disney depuis quand même pas mal de temps. Parce que il a fait une loi pour interdire la propagande LGBT. Mais en fait, tout ça, on dirait Poutine, ces gens-là. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils couchent dans le même lit, les Américains et Poutine. Et il a fait cette loi et le directeur de Disney l'a décrédibilisé, a dit que cette loi était pourrie, quoi, en gros. Et du coup, tous les avantages qu'avait Disney en Floride, je ne sais pas, ils avaient des gros avantages, lesquels.
Il y a le Disney, comment ça s'appelle, le parc Disney.
Ouais, a plein d'avantages, mais je ne sais plus lesquels, mais peut-être qu'ils paient moins cher leur électricité, j'en sais rien. Je sais pas, ils ont plein d'avantages, mais ils ont perdu tous ces avantages parce que... Parce qu'ils auraient une idéologie qui ne protégerait pas bien les jeunes enfants.
Ouais. Et pour revenir sur le Tennessee et le bannissement des shows de drag queen, a émergé une photo du gouverneur de Tennessee qui était pour cette loi, habillé en drag queen.
Non.
Si, si, si.
Wow. Ouais. Oui, mais c'était quoi, un petit foutage de gueule? Il était
un c'était une photo
masqué.
Dans sa jeunesse où il est en drag queen. Et il l'a justifié en disant oui, mais à cette époque, c'était pas de l'idéologie et de la propagande, quoi. Okay. Mais bon, il s'est bien foutu la honte, quoi.
Ok.
Et il s'est passé la même chose en Wallonie.
En fait, il s'est passé la même chose à mon travail, mais on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler. Mais quand Peggy Lee Cooper est venue à la bibliothèque de Berkham-Sainte-Agathe, le centre culturel pour lequel je travaille a reçu des emails avec ce même type d'argument, que c'était pas possible que Peggy Lee Cooper fasse des lectures. Donc voilà, ça c'est à Bruxelles et ça se passe aussi.
Aussi dans le sud de la France, il y a une lecture qui a été empêchée parce que le maire avait peur, avait reçu des menaces.
Voilà. Donc en fait, ça se passe aussi ici. On se moque d'eux, mais en fait, c'est la même chose ici. Peut-être juste on en parle un petit peu moins, mais voilà, on vient de le faire.
C'est
on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Allez. Bisous.
Bisous.
Bisous. Chronique Mutante, une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.